chers auditeurs et auditrices, bienvenue, vous écoutez le 78e numéro d'En Spectateur face à l'interview du collectif Les Rêves Rient, qui vient nous présenter sa création Marin Mon Cœur. Et si vous souhaitez écouter le retour critique sur la pièce 20 000 lieues sous les mers jouée au Célestin, ce sera en face B de l'émission, c'est-à-dire l'autre podcast disponible sur la page. Ici, vous êtes donc du côté de la musique, de l'impressionnisme et des aventures imaginaires, et j'ai croisé toute une troupe aux abords du Théâtre Cantor. Je reçois donc aujourd'hui Clémentine, Emma et Andrea. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Même si c'est pas tout à fait la troupe au complet, mais vous allez nous présenter un peu votre création, donc ce sera à partir de jeudi en Théâtre Cantor. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu en quelques mots ce que vous allez nous montrer pour teaser un peu et donner un peu envie aux auditeurs et auditrices?
Alors non seulement on va vous donner à montrer de très belles images, mais vous allez surtout avoir à écouter les pièces pour piano à quatre mains de Ravel et Debussy qui sont au cœur de ce spectacle Marin Mon Cœur, à la fois théâtral et musical. Donc il y aura des choses à voir, il y aura des choses à entendre, il y aura des choses à sentir, à toucher, par empathie. Et ce spectacle, donc, c'est une invitation à la rêverie, on appelait ça des rêveries poétiques, autour donc effectivement d'un répertoire impressionniste. C'est une petite forme courte d'une heure qui invite donc à faire la découverte de Marin. Marin, ce petit personnage qui nous vient du texte d'Eugène Savitskaya. Et Marin découvre tout en fait pour la première fois. Donc il découvre pour la première fois le goût qu'ont certaines choses, leur odeur aussi. Donc il appréhende d'abord le monde par les sensations. Et ce spectacle invite les spectateurs à eux aussi se reconnecter avec ses sens, ses sensations, pour apprécier pleinement cette petite bulle poétique qu'on espère vous offrir pendant une heure.
D'accord, donc de la musique, de la rêverie en guise un peu de fil conducteur.
Exactement.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler déjà un petit peu de la genèse de ce spectacle? Du coup, il y a beaucoup d'éléments dedans, il y a du texte, de la musique, peut-être d'autres choses aussi dont on pourra parler. Comment est-ce que ça s'est formé un peu au début, tout ça?
L'idée même du spectacle, elle est née d'un programme de concert, en fait, donc vraiment de la musique, puisque ces œuvres que vous allez entendre en cantor, ces œuvres musicales, je les ai jouées avec Juliette, donc la deuxième pianiste, en concert toute l'année dernière. Et ce sont des œuvres tellement qu'on aime beaucoup, qu'on a beaucoup travaillé, qu'on a beaucoup joué. On a vraiment créé tout un univers intérieur à deux en les jouant. On s'est dit, elles sont tellement riches, tellement évocatrices de choses très denses, que ce serait dommage que le public passe finalement à côté de plein de choses qu'elles transmettent. Donc déjà, on a expérimenté un petit peu ce que ça pouvait apporter à la réception de la musique, d'expliquer un peu les œuvres avant de les jouer, et ça a été très apprécié. On a eu de super retours du public qui comprenait mieux, qui avait plus de clés d'entrée dans la musique, juste simplement déjà en donnant des titres plus précis, pas juste on va jouer la petite suite de Debussy, mais on va jouer en bateau, cortège, et qu'est-ce qu'on va entendre dans toutes ces pièces-là. Et ça m'a tellement plu de voir qu'on pouvait aller plus loin dans la transmission de ces œuvres, que je me suis dit que vraiment on pouvait faire beaucoup plus que ça, et par le biais d'autres arts, permettre une meilleure transmission en fait de ses œuvres, et ne pas rompre la magie avec des discours, mais juste trouver des textes adaptés, de la poésie, du théâtre, pourquoi pas aussi la danse, voilà, tout était possible en fait. Je rêvais de ce spectacle pluridisciplinaire. Et puis j'ai assisté à la représentation de La Petite Sirène qui avait été donnée au Théâtre Cantor l'année dernière. Et quand j'ai vu tous ces talents qui étaient là, je me suis dit, mais si y a de ces gens-là qui sont intéressés par ce type de projet, je serais super heureuse de pouvoir mettre ça en place. Et donc voilà, c'est ainsi que le collectif Les Rêveries s'est formé, avec ces gens motivés par l'idée. On s'est rencontrés, on a commencé à dire que chacun pourrait donner ses idées, en apportant aussi son univers, sa sensibilité personnelle, ses compétences propres et différentes à chacun. Et c'est comme ça que tout a commencé.
D'accord. Alors du coup, il y a l'idée d'articuler comme ça de la musique avec d'autres éléments, notamment le rapport à un texte dont vous avez dit, vous tirez le petit personnage de Candide de Marin. Alors du coup, ce texte, qu'est-ce que vous en avez gardé? Comment est-ce que vous avez travaillé avec? Qu'est-ce que vous lui avez ajouté, retiré? Comment ça s'est passé un peu?
Alors ce texte, on l'a surtout gardé sous forme de bribes, parce qu'on avait quand même envie d'avoir un fil conducteur avec une narration, en se disant que c'était peut-être un peu déroutant de, pour une fois, d'aller au spectacle et de ne pas faire confiance uniquement à ses yeux, mais aussi à ses oreilles, de ne pas faire confiance uniquement à son cerveau et à nos habitudes interprétatives, mais de se laisser un peu porter, bercer, troubler. Et donc, on avait quand même envie, pour pas que la chose soit trop compliquée à recevoir, en tout cas, avoir ce, ce fil-là, mais plutôt sous forme de bribes, parce que ce qui importait, c'était vraiment de pas faire un théâtre de texte, mais de venir apporter comme ça différents matériaux, et le texte en lui-même est aussi un matériau, au même titre que toutes les petites matières que vous pourrez découvrir dans ce spectacle. Et donc il a été traité un peu comme un matériau, donc la voix est elle aussi amplifiée, enfin, c'est en tout cas, c'est cette façon-là qu'on a traité le texte de Jeanne Savitskaya.
Sachant que la difficulté toujours, c'était de rester toujours proche de la musique, en fait, et c'est vrai que bon, on avait des superbes textes, il n'y aura pas que du Savitskaya d'ailleurs, c'est l'essentiel, hein, c'est le principal, mm-hmm. Mais il y aura aussi un peu de Camus, de Flaubert, enfin vraiment un peu tout ce qui pouvait avoir rapport en fait avec la musique et ce qu'elle nous semblait transmettre. Et ça c'était difficile en fait de trouver une unité globale tout en restant, tout en partant pas complètement ailleurs en fait, et en étant vraiment au service de la musique et de ce qu'on voulait donner à voir et à entendre.
Et puis ce qui nous plaisait dans le texte de Jeanne Savitskaya, c'est que la question des sensations est tellement première et au cœur de ce qu'expérimente cette petite figure qui en plus est évidemment théâtrale. Donc c'est pour ça qu'en relisant ce texte, on s'est dit mais oui, ça résonne très très fort avec non seulement ce qu'on veut faire, mais aussi ce que la musique nous inspire en l'écoutant, en la réécoutant.
J'ai l'impression de ce que vous dites un peu que c'est quelque chose de très important pour vous, l'idée de rendre accessible la musique avec un fil narratif, etc. C'est vrai, c'est important pour vous ça de se mettre à la portée du spectateur ou de la spectatrice?
C'est vrai que c'était un peu l'idée de base qui a fait germer ce spectacle. Et c'est vrai que bon, bah, quand on va au concert classique, c'est un peu déprimant. Moi, je suis musicienne professionnelle, je peux en parler. Le public qui est réceptif en fait à toute cette musique, et c'est un public qui a cette culture-là pour des bonnes ou des mauvaises raisons d'ailleurs. Et je me dis c'est tellement dommage parce que cette musique-là, elle doit pouvoir être reçue par des jeunes, des enfants ou même des gens qui n'ont pas eu de culture de ces œuvres-là. Il doit être possible, en fait, de manifester leur intérêt et leur compréhension et d'aller chercher leur sensibilité.
Ouais. Et avec cette pièce aussi, on voudrait que ça ne fasse pas peur. Parce que généralement, lorsqu'on a un piano directement, tout de suite, les gens sont un petit peu... C'est compliqué, c'est peut-être un peu trop intellectuel. Enfin, souvent, il y a cette idée-là avec le piano. Or là, on voudrait rendre les choses vraiment... vraiment facile d'accès et montrer que le piano, on peut tous l'écouter, on peut tous le comprendre à notre niveau, avec notre manière, notre sensibilité. Et voilà, créer quelque chose vraiment d'accessible.
Une question que je voudrais soulever aussi. On a parlé vraiment de l'attention portée à se rendre accessible. Du coup, c'est quoi un peu le public que vous visez avec ce spectacle ?
Alors quand on a monté le spectacle, on voulait pas réfléchir en fonction d'un public précis, on voulait pas que ça influence notre création, on s'est dit on va faire ce qui nous vient par rapport à la musique, au texte, etc. Et puis on verra ce que ça donne. De fait, je pense que c'est vraiment un spectacle tout public où les enfants et la jeunesse est particulièrement bienvenue. De fait, le répertoire musical est déjà orienté jeunesse, avec les contes de Mamerloi de Ravel ou même la petite suite de Debussy qui a ce côté un peu accessible. Et en même temps, tout le monde est vraiment bienvenu. On espère qu'on pourra toucher le public le plus large possible, en sachant que c'est comme les contes de Perrault, c'est censé être pour les enfants, et en fait la richesse et la complexité à l'intérieur est telle que tout le monde peut le lire avec intérêt. Il en est de même des contes de Mamerloi écrits par Ravel. Ça a une apparence de simplicité ou d'un caractère un peu enfantin, alors qu'en fait c'est tellement riche et original qu'on peut le jouer, le travailler toute sa vie. C'est ça qui est intéressant.
Bon, jusqu'ici, on a parlé essentiellement du texte, de la musique. Mm-hmm. Vous avez dit aussi qu'il y aurait deux, trois autres petites choses un petit peu. Qu'est-ce qu'on verra d'autre ? J'ai entendu parler peut-être de projections, par exemple.
Vidéo. Oui.
Alors, dites-nous-en un peu plus.
Oui, effectivement, il y aura des projections. Alors, c'est pas véritablement des projections vidéo. C'est plus précisément des projections avec un rétroprojecteur, les vieux rétroprojecteurs que l'on trouve dans les salles de collège, exactement, qu'on a essayé de remettre un petit peu au goût du jour pour créer, comment dire, des mondes d'ombre, des mondes de lumière, et pour faire naître justement des espaces un peu narratifs qui peuvent, comment dire, qui peuvent naître et puis tout de suite s'évanouir. Donc voilà, on a essayé de jouer un peu avec ça. Comment ne pas en dire plus sans trop.
C'est important de ne pas tout gâcher. Tu
ouais, as raison. Exactement. Et en fait, ce qu'on a essayé aussi, c'est vraiment de créer des systèmes très bêtes, en fait. Toujours très simples. C'est qu'avec trois bouts de carton, un bout de tissu et un peu de lumière, on fasse naître des choses qui permettent juste d'éveiller la sensibilité et l'imaginaire.
Mais c'est ça, tout est fait à la main, il n'y a rien
ouais,
de...
c'est vraiment...
À l'instar de Marin, c'est du pur bricolage.
Ah oui, c'est... ah ouais.
Et il n'y aura pas, voilà, pas de vidéo, pas de photos, rien de...
Non.
Rien de tout ça.
Tout juste... est... Toutes les figures qui sont présentes sont des choses qui ont été découpées par nos petites mains. Il y a des choses qu'on a fabriquées nous-mêmes. Un peu les miennes, voilà. Et tous les systèmes, ouais, enfin... Après, ça va au-delà de la projection aussi, mais tous les petits systèmes qu'on a conçus, c'est vraiment des choses...
Faites manuellement.
Faites manuellement.
Simple mais efficace.
Simple mais efficace. On... oui, vraiment, on espère.
Ça, ça donne envie de voir tout ça, je trouve, la manière dont vous en parlez. Alors, vous êtes un collectif, donc vous travaillez avec une écriture au plateau, et puis il n'y a pas vraiment de metteur ou metteuse en scène attitrée. Comment ça se passe, ça? Déjà, est-ce que ça se passe toujours bien? Et puis, comment vous avez travaillé un petit peu?
Ça, c'était une nouveauté pour tout le monde, je crois,
ouais,
hein, parce que,
ouais.
Parce que tout le monde avait envie de tester ça, en fait, de pas vraiment dans un fonctionnement démocratique où tout le monde a son droit de parole, tout le monde participe de façon égale et spontanée à la création du spectacle. J'en ai parlé à des metteurs en scène cet été et ils m'ont dit « Ah, bon courage !» Alors je me suis dit « Bon, bah,
mais c'est vrai
que ça va donner. » Et oui, oui, bah, c'est vrai que c'est ambitieux, puis surtout ça prend plus de temps parce qu'on est obligé de faire attention à ce que chacun soit d'accord, en fait. Est-ce que chacun tombe d'accord? On n'est que 6, si on avait été plus, ça aurait été encore plus difficile, ouais. Mais déjà avec 6... Alors ce qui est super, c'est que chacun apporte vraiment son grain de sel. Je trouve que chacun a donné quelque chose de fondamental au spectacle. Là, sur ce coup, c'est vraiment réussi. Après, évidemment, ça prend beaucoup de temps et ça prend plus de temps. Je pense que c'est surtout là la difficulté. Et puis, de toujours être dans le respect de l'autre, de ses idées, d'être sûr qu'on se soit bien compris.
Ça suppose une grande écoute aussi.
Voilà.
Parce que c'est le maître mot de ce spectacle, l'écoute. Ça suppose aussi effectivement une grande écoute. Mais ça s'est bien passé puisque on se connaissait pour la plupart. On a fait la découverte la rencontre des deux pianistes avant le projet. Mais effectivement, ce qui était agréable, c'était de travailler avec les compétences, mais aussi incompétences de chacun. C'est-à-dire qu'on s'est tous nourris mutuellement et
du coup, ça
a produit déjà des imaginaires qui étaient plus riches parce que Henri, enfin, nourri de tout ce que chacun pouvait apporter. Et puis aussi de découvrir, enfin vous pour les pianistes, d'avoir aussi une part à la création théâtrale, nous de découvrir aussi autrement comment on travaille au piano, comment on répète, etc. Donc c'était vraiment très enrichissant.
Et vraiment, je pense qu'on aurait enlevé une seule personne du collectif, le spectacle n'aurait pas été le même.
Ah, c'est
et
sûr,
ça, c'est très beau de se dire ça, qu'on a vraiment fait une création à 6. Même si des fois, on n'était pas d'accord,
oui.
Ou on a dû parler pendant une heure.
C'est un effort, hein.
Voilà,
ça a été vraiment aussi... Il y a vraiment ce côté-là de l'effort perpétuel, de dire, bon, ok, d'accord, il faut aussi prendre sur soi et dire, cette idée que j'avais, je la lâche, et ça sera quelque chose d'autre. Mais je pense que dans le groupe, on a été quand même relativement humbles aussi par rapport à nos capacités ou nos compétences. Chacun était capable de dire, bon ça, je te le laisse à toi parce que moi, je me sens pas de le porter. Tu le porteras sûrement mieux, etc. Donc chacun avait vraiment sa part aussi de créativité et chacun se respectait aussi, je crois.
Oui.
À ce niveau-là.
Parce que tout le monde confirme autour de la table.
Oui,
oui, bien sûr.
Alors, merci à toutes les trois d'être venues nous présenter un peu la pièce. Donc, chers auditeurs et auditrices, vous pourrez retrouver Marin Mon Cœur du jeudi 14 au samedi 16 décembre. Ce sera à 20h30 en Théâtre Cantor. Et n'oubliez pas, évidemment, de réserver vos places sur le site de notre partenaire En Scène. C'est la fin de ce numéro d'En Spectateur, animé aujourd'hui par Marie Lécuyer, avec une partie de collectif Les Rêveries. La semaine prochaine, nous vous proposerons bien sûr le retour critique sur le spectacle Marin Mon Cœur. Bonne découverte théâtrale, et d'ici là, surtout n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, n'oubliez pas de vivre En Spectateur.